Restons courtois. Marc Hainaut.
Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Valentin Gore et Étienne Darjac. Bonsoir à nouveau messieurs. Nous avions écouté le politologue Thibaut Muzergue parlant de la... qui est venu nous parler de son dernier ouvrage, La droite woke, aux éditions de l'Observatoire. Et en attendant, certains attendent Godot, nous attendons Hervé de Lépineau, député maire de Carpentras, qui a participé au débat sur la fin de vie et qui arrive dans quelques instants. En attendant, chers amis, on a beaucoup parlé de l'affaire Liana il y a quelques semaines. On se retrouve avec un autre drame, celui du jeune Louis, 17 ans, battu à mort par une bande de jeunes. Louis, que son père avait placé pour son bien à l'aide sociale à l'enfance. Enfin, tout est tragique dans cette histoire, on va y revenir. Une aide sociale à l'enfance défaillante, un père dépassé, un jeune homme qui, malgré les nombreuses alertes et les nombreuses plaintes, n'a jamais été protégé. Et cette mort, cette mort idiote, cette mort imbécile, cette mort terrible. J'ai presque envie de vous dire, messieurs, un fait divers, un de plus, un mort de trop, un mort trop jeune, mais surtout une illustration, encore une fois, des faillites françaises, Valentin Gore.
Oui, bah c'est la triste litanie de ces prénoms qui deviennent vraiment un marqueur de l'époque. C'est-à-dire maintenant, il y en a tellement qu'ils défilent d'une semaine à l'autre. Vous avez parlé de Liana, maintenant Louis, et on se dit à chaque fois que finalement, il n'y a pas tellement d'avancées politiques, même aucune, et particulièrement sur cette question de l'aide à l'enfance, que l'État a quand même délégué, je crois d'ailleurs que c'était sous Nicolas Sarkozy, là on l'a refourgué aux départements qui sont bien démunis pour s'en occuper. Donc ça fait partie des parents pauvres parmi les parents pauvres d'un État qui, visiblement, on en parlait pour la justice des mineurs tout à l'heure, qui ne sait plus faire face à ses missions régaliennes, écrasé qu'il est par les dépenses sociales, qui représentent plus de la moitié de la dépense publique en France. Mmh. Donc l'État ne peut plus répondre à ses prérogatives premières.
Mmh. Étienne Darjac, sur cette affaire.
Oui, c'est assez tragique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une ou deux émissions peut-être, on avait évoqué le rapport qu'avait publié Rupert Lowe sur les viols au Royaume-Uni, commis par les immigrés. On anticipait un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'émergence probable dans les années à venir d'un scandale similaire dans les ASE justement en France. Dont on sait un peu tous aujourd'hui qu'il s'y passe des choses horribles, mais sans que on ait vraiment d'idées très précises. Et ben, bon, alors il s'agit ici pas d'une agression sexuelle, mais ça vient, j'allais dire, illustrer un peu cruellement notre propos. On touche à j'allais dire à ce qui peut se faire de plus bas dans la société française. Hein. On parle d'un gamin qui est issu de classes extrêmement populaires, et ce qui est déjà en soi difficile, hein, de grandir dans des conditions de vie telles que sa famille l'a connue, et qui se trouve, bon an mal an, pour de bonnes ou mauvaises raisons, relégué dans des conditions encore plus dures, très souvent sordides, que sont celles de l'ASE. Il y a une espèce de fatalité qui s'est abattue sur ce gamin, je trouve, c'est vrai qu'on parle de cette litanie de noms, de ces faits divers qui s'accumulent, je suis d'accord avec vous, bien sûr, mais je trouve qu'il y a une différence de nature dans cette histoire-là. D'abord dans le profil des agresseurs et des meurtriers, qui sont, alors c'est vrai que souvent, quand on parle de ces affaires, c'est souvent des agresseurs issus de l'immigration, qui s'en sont pris un blanc, là c'est quand même un peu plus compliqué que ça.
Vous avez raison d'en parler, Étienne, parce que le profil de ces jeunes, effectivement, sort de l'ordinaire, et en même temps non, quoi. C'est des jeunes avec des prénoms pas forcément des prénoms de sous-culture. Enfin, on voit en fait socialement.
J'ai presque envie de vous dire, on a presque passé une nouvelle étape en fait dans le déclassement français. On a eu, alors je réfléchis un peu à voix haute, hein, mais l'étape où effectivement les produits issus purement et simplement de l'immigration s'en prenaient aux autochtones. Et avec cette affaire, on a un peu peut-être l'émergence d'une nouvelle type de confrontation interne à ce mélange entre ces deux peuples dont les premières générations, comme celle de Louis et ses assassins, arrivent à avoir 14-15 ans aujourd'hui. un peu ce syncrétisme qui donne aussi bien Hamza Ladouane par ailleurs que Louis et ses camarades. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger dans ce fait divers qui, je crois, le met à l'écart de ceux qu'on a pu connaître avant.
Valentin Gore, en 3 secondes pour conclure sur ce sujet qui mériterait plus de temps, hélas.
Oui, j'ai pas grand chose à ajouter à ce que vous avez dit, Étienne. C'est vrai que c'est intéressant, cette espèce de mélange, de syncrétisme, avez-vous dit, et de cette sous-culture, effectivement, qui est en train de naître en France, qui n'a de populaire vraiment qu'un nom lointain, parce qu'elle est vraiment proche de la barbarie. Dans ces différentes représentations, on en parlait pour Hamza Ladouane, on voit là qu'il y a la naissance dans ce crépuscule naissent les monstres, disait Gramsci. Mais c'est un peu ça, là. Il y a des choses qui se passent dans les tréfonds de la société française qui ne sont pas reluisantes à observer.
Et qui se passent dans la société française, mais qui se passent aussi, hélas, à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Hervé de Lépineau.
Oui, bonsoir.
Vous êtes député maire de Carpentras, donc vous avez été élu maire de Carpentras, mais suite à un recours d'un des candidats, vous conservez du coup votre mandat de député en plus de votre siège de maire en attendant une décision de justice en ce sens. Donc vous avez participé au débat sur la fin de vie ce mardi 30 juin 2026 par une majorité, par 295 députés ont voté pour cette proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, pour reprendre la terminologie officielle, avec contre 232 et 35 abstentions, une majorité nette, mais une majorité qui se réduit au fur et à mesure des lectures, Hervé de Lépineau.
Elle se réduit pas suffisamment vite, puisque en troisième lecture, le texte passe avec une majorité absolue.
Ouais, ouais.
Donc oui, il y a des parlementaires, des députés qui ont révisé leur point de vue, mais à la marge.
Oui, donc c'est quelque chose. Et on a vu quand même ces débats évoluer. On a vu les partisans de ce texte se cacher derrière des lignes rouges qui ont proposé, qui se sont vendus un texte raisonnable avec énormément de contraintes. Et c'est pas ce que vous avez vu. C'est pas ce que vous avez vu au fur et à mesure des débats.
Ah non, enfin, on n'est pas tombé de la dernière pluie. Je répète qu'on en est à la troisième lecture du texte. Donc par conséquent. Leur attitude très autoritaire, lorsqu'ils nous parlent d'un texte équilibré, si votre maison est équilibrée comme leur texte, elle va s'effondrer tout de suite. Hein, je vous l'ai dit. Donc on est en fait sur des promoteurs d'un texte qui sont partis dès le départ gagnants. Il faut leur reconnaître une certaine assurance. Et au fil des lectures et des votes, même si leur majorité absolue a baissé en nombre de députés, ils ont toujours gardé l'attitude du vainqueur, c'est-à-dire une certaine forme de mépris à l'égard de ceux qui avançaient des arguments raisonnables pour dire pourquoi ce texte est mauvais. Voilà, ce soir, ils célèbrent une victoire, c'est évident.
Ils célèbrent une victoire et en même temps, c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant par les différents partis au cours de ce débat, c'est que le débat a toutefois été, d'après tout le monde, de bonne qualité, respectueux. On a pris le temps d'écouter les arguments des uns et des autres. C'est aussi votre impression, Hervé de Lépineau ?
Je rebondis. Pourquoi les échanges ont été courtois ? Parce que les opposants ont été courtois.
Oui, oui.
C'est ça la réalité. Nous aurions, nous, réagi comme réagit d'ordinaire la gauche et l'extrême-gauche quand un texte ne lui plaît pas. Je vous garantis que les débats n'auraient pas été ni apaisés, ni courtois.
Alors, l'autre question, on sait que ce sujet, théoriquement, est transpartisan au sens où on nous a dit, c'est pas parce qu'on est de droite qu'on est forcément contre, c'est pas forcément de gauche qu'on est forcément pour, et au centre c'est pareil. Toutefois, c'est vrai qu'on regarde les détails du vote, on s'aperçoit qu'en réalité, les trois groupes qui se sont le plus opposés en proportion à ce texte, c'est le Rassemblement National dont vous faites partie, c'est l'UDR, d'ailleurs à l'UDR 100% des députés ont voté contre, c'est le seul groupe de toute l'Assemblée qui a été unanime sur ce sujet, et vos collègues des Républicains. Comment expliquer justement que cette défense du plus faible, parce que c'est au fond, philosophiquement, ce dont il est question, comment se fait-il, d'après vous, que la gauche, justement, l'ait complètement abandonnée, je pense même à la France Insoumise. Je sais qu'il y a eu énormément d'associations anti-validistes, comme ils le disent, qui sont allés sensibiliser les députés insoumis pour qu'ils votent habituellement en leur disant « vous n'avez pas du tout conscience de ce que vous êtes en train de faire et ça n'a servi à rien ». Comment expliquer que la gauche est à ce point foncée, surtout la gauche insoumise, est à ce point foncée dans ce texte pour vous, Hervé de Lépineau ?
Mais parce que ce texte est éminemment idéologique et transgressiste. Voilà. La gauche est généralement très idéologique et très transgressive. Donc elle reste fidèle à elle-même.
Valentin Gore, vous avez une question pour Hervé de Lépineau.
Oui, bonsoir monsieur le maire. Une question sur la visite du pape qui interviendra au mois de septembre, donc après le vote final du texte. Est-ce que ce moment de la visite, qui a été choisi notamment par l'Élysée, hein, évidemment, en conciliation avec le Vatican, ne vous étonne pas ? C'est-à-dire, on a quand même du mal à imaginer Léon XIV venir visiter la France un mois après le vote d'une telle loi, si la loi devait être votée.
Alors d'abord, c'est pas moi qui tiens l'agenda diplomatique.
Évidemment, oui.
Rendons au pape ce qui lui appartient. Donc je ne ferai aucun commentaire sur le caractère bienvenu ou malvenu de cette visite. Pour moi, ce n'est pas le sujet. Par contre, du côté de l'Élysée, bien évidemment, on va instrumentaliser cette visite du Saint-Père pour essayer de se racheter une sorte de virginité morale. C'est évident. Mais pour avoir rencontré plusieurs fois sa sainteté, je la fais suffisamment fine et astucieuse pour, un, ne pas tomber dans le piège, et deux, avoir les réponses appropriées.
Il y a eu, Hervé de Lépineau, alors il y a eu une mobilisation des députés à l'Assemblée nationale. On pense, si on doit penser à des députés de votre groupe, outre vous, on peut penser au député Christophe Menz. Quand on va du côté des Républicains, on peut penser à Philippe Juvin, à l'UDR, on peut penser à Vincent Trébuchet, à Anne Mansouri. Il y a eu donc une mobilisation des parlementaires opposés à ce texte, ça s'est vu. En revanche, il y a eu une mobilisation de beaucoup de personnes représentant le corps médical aussi. Il y a eu une manifestation qui n'a réuni que entre guillemets, 4 à 5 000 personnes. Est-ce que c'est une déception pour vous ? Est-ce que une grande mobilisation populaire, d'après vous, aurait pu faire reculer le gouvernement, même si, évidemment, personne n'est Madame Irma dans ce studio?
Je dirais que la faible mobilisation du corps social français est certainement due au fait qu'il est un petit peu épuisé par les provocations perpétuelles d'Emmanuel Macron. Ne nous l'aurons pas, Emmanuel Macron est bien à la manœuvre sur le sujet. Par conséquent, vous savez, avec Emmanuel Macron, c'est un sujet d'indignation par jour. Et en règle générale, on n'a toujours pas digéré celui de la veille quand celui du jour vous tombe dessus. Donc je pense qu'il y a un phénomène d'épuisement de nos concitoyens. Et après, et ça c'est l'aspect plus préoccupant, je crois qu'une majorité des Français s'en fiche complètement.
Oui, vaguement pour, en fait, parce que la question posée, c'est est-ce que vous êtes pour mourir dans la dignité, ce qui, a priori, devrait susciter une adhésion totale.
D'accord. Qui n'est pas d'accord pour mourir dignement ? Moi, je suis le premier à dire que je veux mourir dignement. Mais c'est quoi mourir dignement ? C'est pas être mis dans un cul de basse-fosse, sans soins, sans accompagnement. Sans considération et sans amour.
Ouais.
C'est ça qui fait la dignité de la mort.
Valentin Gore, vous avez une dernière question peut-être pour Hervé de Lépineau.
Oui, après, Étienne Darzac. Bien sûr, une question peut-être sur le vote, hein, notamment, et sur les débats. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, que la teneur des débats parlementaires, notamment chez les députés qui sont favorables, en dehors de quelques-uns qui vraiment sont des promoteurs de ce sujet, n'est tout de même pas très légère ? C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a beaucoup de députés qui vont voter pour l'euthanasie, un peu comme ça, finalement, sans y avoir réfléchi longuement, en considérant que c'est un progrès qui, selon la fameuse formule maintes fois rabâchée, n'enlève rien à ceux qui sont contre et que finalement c'est une liberté supplémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une légèreté confondante dans la manière dont beaucoup de vos collègues envisagent ce débat qui pourtant est d'une insondable gravité ?
Je peux vous dire que parmi les promoteurs du texte qui ont bataillé et en commission et dans l'hémicycle, il n'y avait aucune légèreté, tout ça était parfaitement réfléchi et mûri. Ensuite, ne perdez pas de vue le communiqué du Grand Orient de France. Vous savez qu'il existe une fraternelle parlementaire. Je pense que les parlementaires francs-maçons étaient le petit doigt sur la couture du pantalon pour accompagner ce texte qui est, il faut le reconnaître, d'inspiration franc-maçonne. Donc non, je pourrais vous rejoindre dans votre observation concernant des parlementaires qui ont voté pour l'euthanasie mais qui n'ont pas participé au débat. Ceux qui ont participé au débat étaient parfaitement renseignés, parfaitement conscients de ce qu'ils votaient.
Et c'est très inquiétant d'ailleurs présenté comme ça. Étienne Darjac, vous avez la dernière question pour Hervé de Lépineau avant qu'on libère notre invité.
Oui, monsieur le député, d'abord je voulais vous remercier d'avoir nommé les choses en parlant de franc-maçonnerie à l'instant. C'est trop rare sur la scène politique aujourd'hui. Donc pour ça, vraiment sincèrement merci. Là, ma question c'était... Quand on a commencé à parler de cette loi fin de vie, comme on l'appelle, on avait la sensation que tout était un peu écrit d'avance, il y avait des sondages complètement délirants qui disaient que les Français y étaient favorables à 80-90% parfois. On avait l'impression aussi, finalement, qu'au Parlement, ça ne ferait pas un pli, ou très peu. On a vu quand même que le sujet a été long, a été douloureux, et qu'au fur et à mesure, il y avait de moins en moins de voix exprimées en faveur de ce projet de loi, que les débats étaient de plus en plus âpres. Et finalement, le vote qui a eu lieu ces derniers jours n'était bon. Alors ça s'est pas joué à une voix près, mais les débats se sont considérablement resserrés. Est-ce que vous avez le sentiment que quelques semaines, quelques mois de travail encore, et on aurait pu obtenir une victoire sur cette question ?
Non, très sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Les modifications des votes au fil des trois lectures, procède de prise de conscience très individuelle. Les choses auraient changé si on avait eu le temps d'un débat au sein de la population. Et l'idée du référendum aurait permis ce débat. Des deux côtés, les associations se seraient mobilisées et le grand public aurait été interpellé. Là, le débat, entre guillemets, était très technique. Donc, à part, entre guillemets, les militants d'un camp ou de l'autre, qui se sont intéressés au sujet, parce que c'est un point d'intérêt dans leur vie, entre autres dans leur vie associative, le grand public est passé complètement à côté du sujet. Je reviens sur la question des francs-maçons. Pourquoi j'en ai parlé ? Mais le Grand Orient a sorti un communiqué de quasi-victoire avant que la troisième lecture ne vienne au vote solennel mardi dernier. Et c'est très rare que les francs-maçons communiquent.
Oui, pour rappeler un petit peu leur paternité, c'était une volonté pour, selon vous, de marquer leur paternité un petit peu du combat, quoi, entre guillemets.
Je pense, parce que la franc-maçonnerie est plutôt discrète, et généralement, quand elle communique sur un texte qui constitue un tournant majeur sur le plan anthropologique et moral, c'est que visiblement, elle est à la manœuvre depuis le début. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt.
Merci beaucoup Hervé de Lépineau, député-maire de Vaucluse, donc député de Vaucluse et maire de Carpentras, d'avoir été avec nous à l'antenne de Radio Courtoisie pour évoquer ce texte de loi fin de vie qui a été voté par l'Assemblée nationale. Vote final le 15 juillet, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Eh bien écoutez, on se retrouvera le 15 juillet pour en reparler. On espère qu'on aura de bonnes nouvelles à vous annoncer, chers auditeurs, à ce moment-là. Merci encore à Hervé de Lépineau et à très bientôt. Restez avec nous, chers auditeurs, puisque le débat continue. Pardon d'ailleurs pour la qualité un petit peu moyenne de l'entretien, mais Hervé de Lépineau nous appelait de loin. Valentin Gore, c'est peut-être ça aussi la difficulté, c'est un débat qui traîne depuis le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça devait être les soins palliatifs, et puis un texte sur les soins palliatifs et l'euthanasie, et puis on sépare le texte en deux, et puis il y a des votes, et puis ça revient au Sénat, et puis ça repart à l'Assemblée, et puis il y a une dissolution, donc on redémarre à zéro. C'est peut-être ça aussi, il y a peut-être les gens en fait ne suivent plus les débats parlementaires parce qu'ils sont incompréhensibles.
Ah bah tout à fait, il y a une méthode d'épuisement, là, effectivement, d'épuisement de l'attention médiatique sur un sujet. C'est vrai que les gens sont dans leur vie, ils ont autre chose à penser. Ce que disait monsieur le député est très vrai, hein, il y a tellement de polémiques qui viennent polluer que les gens, hélas, en viennent à oublier l'essentiel, et ça, c'est vraiment l'essentiel, ce qui est en train d'être voté. Le choix de la date finale, quand vous faites un vote solennel le 15 juillet, c'est pas là où vous allez évidemment avoir l'attention la plus grande. Mais c'est vrai que c'est un sujet insaisissable et on voit l'obsession. Voilà, monsieur le député parlait du Grand Orient. C'est vrai qu'après tout, on a quand même le droit d'en parler. Ce sont des gens qui ont un nom et une adresse. Et ils ont reçu, je le rappellerai, le président de la République lui-même, devant
Absolument.
lequel ils lui ont eux-mêmes fait cette sollicitation d'avancer sur ce sujet. Donc, bien sûr qu'il faut les citer, puisque c'est leur philosophie qui est à l'origine de ce projet de loi. Et c'est bien eux qui ont voulu qu'elle arrive à terme
Oui.
devant le président de la République. Alors moi, ça m'amuse beaucoup, parce qu'on parle sans cesse de la lutte contre les communautarismes, mais voilà une communauté devant laquelle Emmanuel Macron s'est rendu de façon absolument comme ça. C'était une première, sauf François Hollande. Voilà, donc là, il y a une rupture étrange.
Et outre effectivement le Grand Orient, les promoteurs de l'euthanasie avaient de sacrés alliés, notamment dans cette association, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, dont il me semble que des révélations de nos confrères de l'Incorrect nous démontrent qu'en réalité, cette association a touché près d'1 million d'euros d'argent public et que, en réalité, nos impôts ont financé cette promotion de l'euthanasie. Étienne Darjac, je vous demande pas si vous avez manifesté dimanche dernier, mais toutefois vous avez vu cette mobilisation de 4000 personnes. Alors on va pas en comparaison des paraisons, mais il y avait 1 million de personnes au moment de la manif pour tous. Vous avez remarqué, le résultat était le même. Comment expliquer cette faible mobilisation, en tout cas faible comparée justement à ce qui a pu être vécu pendant la manif pour tous il y a plus de 10 ans?
Bah écoutez, d'abord oui, effectivement j'y étais, je réponds à la question que vous m'avez pas posée. Faible mobilisation, c'est vrai. Je précise quand même que la manifestation a été organisée en très peu de temps par des gens extrêmement méritants et que, compte tenu des circonstances, c'est-à-dire compte tenu de la complexité du sujet, compte tenu du créneau, hein, c'était le week-end du 28 juin, dernier week-end de juin, compte tenu de la canicule, compte tenu des menaces de la préfecture qui a failli annuler la manifestation moins d'une heure avant.
Pour quelle raison,
cause de la canicule, parce que inquiétude sanitaire, il a fallu démontrer par A plus B que tout était prévu, enfin bref. Donc je tiens quand même à féliciter les organisateurs et les participants, parce que dans les délais qui étaient les leurs et dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait, réunir 4000 personnes est pas si négligeable. En tout cas, dans le contexte actuel, c'est sûr, quand on se souvient des cortèges, j'y étais également par ailleurs, de la manif pour tous il y a 10 ans maintenant, c'est dire, ça donne un peu le vertige et on se demande un peu si cette période manif pour tous n'a pas été une poussée de fièvre un peu subite, un peu aussitôt retombée dans l'histoire de la droite française. Sans doute que l'échec politique qui a tranché la question du mariage pour tous, hein, puisqu'à la fin c'est une défaite,
oui,
évidemment, a calmé un peu les ardeurs de ce monde conservateur catholique qui était si peu habitué à manifester, qui s'est un peu enflammé, c'était très beau sur le moment, qui s'est dit on y va, on va gagner, et qui a
Mais
été
brisé
un peu,
par la défaite, en fait,
voilà,
d'après
sonné,
vous,
brisé par cette défaite, et c'est aussitôt dit bon bah en fait ok, ça sert à rien. Et moi je vois ça, je dois vous avouer que je suis un peu un des derniers Mohicans à me forcer parfois à faire toutes les manifestations contre
Bravo.
L'euthanasie, la PMA, la GPA, tout ce que vous pouvez imaginer
de
sordide, voilà.
Anti-conservateur, justement.
Je vous avais que j'y vais souvent par devoir, parce que en fait on n'y croit plus et on y va juste parce qu'il faut y aller, et on est de moins en moins nombreux. Donc oui, il y a sans doute un élan qui a été brisé post-mariage pour tous, et qui sans doute enfin en tout cas je ne le vois pas reprendre sur les prochains sujets. J'imagine que la la GPA tardera pas à arriver, de toute façon, bon, on en est.
Ça, tout dépend de qui sera élu en 2027. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on nous a...
Sinon, on garde le moral.
Oui, non, mais en fait, on pourrait penser que le sujet de l'euthanasie ne nous concerne pas, parce qu'il ne concernerait que les personnes âgées ou très malades, les personnes qui feraient elles-mêmes la demande de manière individuelle et éclairée. Or, on s'aperçoit que ce texte de loi, en réalité, est absolument abominable. Il nous fait faire un bond en avant, il nous fait rattraper d'un seul coup le Canada, la Belgique, la Suisse, enfin, à peu près tout le monde. Et que, à la fin, ce seront les plus faibles qui trinqueront, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas les moyens de se payer des soins à domicile et qui n'auront pas la garantie d'accéder à des soins palliatifs. Donc, ne serait-ce que pour des mesures sociales, il faut, pour des questions sociales, il faut s'opposer à ce projet de loi. Si des gens de gauche, si des élus de gauche nous écoutent, s'ils ne croient pas au conservatisme, s'ils ne croient pas à la bioéthique, ils croient au moins à cette raison sociale. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pour cette émission. Je vous retrouve avec plaisir jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien, abritez-vous, hydratez-vous, et à très bientôt.
Ça suffit maintenant.